dans les harems royaux, nus, embaumant jasmin, musc et santal mêlés, ondulant parmi l'or et les corps emmêlés. Elles attendent de leur sort dans les bains parfumés, têtant le narguilé. Elles aiment à donner aux femmes d'à côté, aux castrats presque entiers, leur beau corps de poupée. Il faut bien s'amuser quand on est prisonnier. Mais lorsque le maître arrive, on oublie les dérives, on se métamorphose en statue d'onyx rose. Sur la moire et l'hermine, dans les vapeurs d'opium, ces traîtresses coquines débouchent des magnums. Et leur débauche fume dans les murs de porphyre. Cependant qu'elle hume l'ambre chaud et la myrrhe. Mandarine pelée se sont martyrifiées, lisant Sophocle et Pline, Sade et Catabiacine. Entre deux jouissances défendues aux esclaves, dans les joies de l'enfance, les plaisirs de l'entrave. Mais lorsque le maître arrive, on oublie les dérives, on se métamorphose en statue d'onyx rose. Odalisque qui rit dans la rose des vents, bagnardes et houris au jeu de lutte savant, grelots et fers aux pieds.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, toujours fidèle au poste. Et nous allons vous inviter en voyage, à voyager en Inde, en compagnie de Marie Saglio, qui vient de publier son premier roman, qui s'intitule Bombay. Ça vient de paraître, c'est paru en janvier dernier, aux éditions Serge Safran Éditeur. C'est un roman passionnant et écrit par une femme passionnée. Marie Saglio, bonjour.
Bonjour Valère-Marie Marchand.
Alors vous enseignez l'anthropologie de l'Inde contemporaine à l'INALCO, vous êtes aussi spécialiste de l'exclusion sociale des bidonvilles d'Inde et du Brésil et des questions migratoires. Vous êtes également psychologue clinicienne auprès de populations exilées dans la consultation de psychotraumatisme de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et après plusieurs ouvrages très sérieux, très scientifiques, vous publiez votre premier roman. Alors il faut dire qu'en 2022, on a fêté le 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. Et je crois aussi qu'il y a eu une commémoration pour les attentats de Bombay en 2022. Donc, et l'année prochaine, vous allez nous en dire un mot tout à l'heure.
Absolument. L'Inde est importante et il y a beaucoup de choses à venir aussi autour de l'Inde, avec des élections en 2024.
Ah voilà, c'est ça. Alors, Marie Saglio, pourquoi ce roman? Pourquoi la ville de Bombay? Est-ce que... Enfin, pour moi, c'est un univers foisonnant, je dirais... Bon, ne serait-ce que par la décharge de Bombay, etc. Cette ville, je veux dire, foisonnante, vraiment. On pense à, pas à 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, mais il y a ce côté très foisonnant de personnage. Quel a été pour vous le point de départ de ce roman, Marie Saglio?
Alors, en fait, c'est un point de départ qui ne cesse de m'accompagner comme point de départ depuis 25 ans que j'enseigne sur l'Inde. Hein. L'Inde, je suis tombée dedans il y a maintenant 30 ans, en fait, en 1992, au cours d'un voyage. Je finissais mes études, etc. Et puis, effectivement, je suis tombée dans l'univers que vous décrivez. Un univers d'une complexité extraordinaire, un univers très poétique aussi, un univers foisonnant. Alors, je me destinais à être chercheur. C'est vrai que pour un chercheur en anthropologie, l'Inde, c'est un monde absolument extraordinaire. C'est aussi un monde où, pour moi, toutes les correspondances, toutes les analogies, disons, auxquelles j'étais habituée comme occidentale, étaient là, tout à coup, différentes, posaient mille questions. Et donc, je suis plongée, disons, dans l'Inde et en même temps, quelque part, plongée dans l'envie, un jour, d'écrire un roman sur l'Inde.
Oui, parce que vous avez écrit beaucoup de des ouvrages d'universitaires.
Absolument, je suis donc d'abord universitaire et j'écris d'abord des livres autour de mes recherches et de mes enquêtes. Et donc j'ai écrit plusieurs livres autour de la question indienne, et dont deux monographies, l'une en français aux éditions du CNRS qui s'appelle Intouchable Bombay, et une deuxième autour qui s'appelle Dharavi, donc le nom du nom de ce gigantesque bidonville dans lequel j'ai travaillé et qui se trouve au milieu, au centre de Bombay.
Ouais, c'est très impressionnant. Alors, l'histoire est la suivante, c'est Shiv, votre personnage principal, qui travaille à Londres pour une firme de recyclage de déchets, je crois, et sa hiérarchie l'envoie à Bombay, dans son pays natal, pour une mission d'envergure. C'est donc près du bidonville de Grandapur que Shiv retrouve le bungalow qui abrite sa mère adoptive, Chandji, et sa famille. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter d'abord tous ces personnages? Parce qu'ils ont tous, je dirais, c'est comme un jeu des sept familles, mais ils ont tous une particularité, une singularité, Marie Saglio.
Absolument. Il me fallait une trame, effectivement, pour dire de l'Inde ce que je voulais dire, et en particulier de Bombay. Et j'avais beaucoup de problématiques, probablement trop, pour écrire un roman. Mais quand on parle de l'Inde, on parle en même temps du monde religieux, on parle du monde social, on parle du monde politique, on parle de tout en même temps. C'est vraiment ce qui fait la particularité. Et même chose pour ces personnages. Donc, le fil directeur du livre est effectivement l'idée d'un retour, hein, qui est un thème peut-être un peu éculé en littérature, mais le fait de faire revenir Shiv, expat à Londres, le faire revenir dans son pays et dans une ville où il a vécu sa jeunesse et où il a fait ses études et où il a rencontré aussi son grand amour, me permettait finalement de revenir à l'Inde avec peut-être un peu plus de possibilité critique que si j'étais partie directement de l'Inde. Et donc cet ancien expat, Shiv, un trentenaire, et qui est au milieu de sa carrière et qui a encore beaucoup de choses peut-être à vivre, revient à un moment où l'Inde, alors dans le livre on se situe après l'élection des nationalistes hindous, donc très concrètement après 2014, hein, premier mandat récent, et donc il revient dans une Inde qui tremble, une Inde qui est une ville qui gronde par ses nouveaux conflits, par ses tensions. Mais il retrouve aussi la poésie de Bombay, la richesse de Bombay, l'incroyable complexité et tous ses fantômes. Et c'était vraiment l'histoire que je voulais raconter, c'est-à-dire où sont les problématiques de Bombay, comment cette ville aujourd'hui continue à battre de manière extraordinaire aussi. Hein, Bombay enveloppe, Bombay avale aussi, et m'avale aussi. Et donc il y a ce personnage principal qui permet, disons aussi, de mettre en miroir les autres personnages, dont les personnages féminins, qui pour moi étaient en fait les vrais protagonistes, c'est-à-dire des femmes qui vont à chaque fois devoir faire des choix très forts pour pouvoir vivre à Bombay, tout simplement, dans une ville qui est extrêmement foisonnante et quelquefois qui peut être très brutale.
Alors, il y a son Lénine, faut que vous présentiez, c'est son demi-frère.
Alors, Lénine, c'est son grand ami. Lénine est le grand ami de Shiv. Donc, Shiv, ce trentenaire expat qui est parti 7 ans, revient. C'est un naïf. Shiv, c'est quelqu'un qui est ouvert encore à beaucoup de découvertes. Il a plutôt le cœur pur, on va dire. Il est sensible, même si il a réussi à faire carrière dans un monde qui peut être lui-même assez dur, hein, celui de la grande entreprise, etc. Et il est sensible. Donc il a une histoire personnelle qui est difficile aussi. Il a finalement perdu ça, c'est un orphelin, et il a été élevé par une grande travailleuse sociale, Shantiji, à Bombay. Donc il a quitté son village pour être élevé par cette femme, et c'est donc ainsi qu'il a découvert Bombay lorsqu'il était adolescent. Et adolescent, il a aussi rencontré son grand ami Lénine, c'est le surnom donc de son ami, qui est lui aussi un homme extrêmement plein de désirs. Lénine est par ailleurs homosexuel dans une Inde qui a mis énormément de temps à faire la paix avec cette histoire, puisque ce n'est qu'en 2018 finalement que l'homosexualité a été dépénalisée, hein, en Inde, ce qui fait réfléchir à toutes ces questions en Inde. C'est très intéressant, entre les tabous, entre des lois et des codes civils qui datent de l'époque coloniale et que l'Inde moderne a du mal à dépasser, enfin bref. Et Lénine, lui, est comme Shiv, il a cette fibre du social worker et travaille, lui, au recensement dans les bidonvilles. Et donc, Shiv, en revenant, va revoir son ami et travailler avec lui autour d'un grand bidonville, alors là, qui est une invention romanesque, hein, mais qui est en fait empruntée à ce que aux 10-15 ans de terrain que j'ai fait dans le bidonville de Dharavi et dans une des grandes décharges de Bombay qui s'appelle Deonar, enfin qui est dans le quartier de Deonar, et dans ce bidonville, donc, qui pour le roman s'appelle Gandapur, la ville sale, une ville finalement dans la ville, les deux vont se retrouver et vont essayer de négocier finalement avec un monde qui leur est hostile au départ.
Il y a une ville dans la ville, il y a une histoire dans l'histoire. Vous dites, on a l'impression d'ailleurs que Bombay, c'est une sorte de trou noir où tous nos repères se perdent. À un moment donné, vous écrivez, non, l'Inde absorbe tout si facilement et elle sait si bien digérer l'incident et l'incorporer dans sa grande histoire de renaissance. C'est un peu la ville des métamorphoses.
Complètement. D'abord, Bombay, c'est la ville des possibles. Et il n'y en a pas tant que ça en Inde, de villes de possibles. L'Inde, d'ailleurs, est un pays rural, on l'oublie souvent, contrairement à la Chine. Hein, l'Inde, avant tout, a quand même 70% de sa population encore dans les villages. Mais en revanche, elle dispose d'énormes mégapoles. Et aucune autre mégapole comme celle de Bombay n'a la capacité de finalement de donner l'espoir à des populations qui viendraient s'y frotter. Donc l'idée, c'est d'abord on trouve du travail encore à Bombay, ce qui n'est pas le cas dans d'autres mégapoles. C'est une ville d'entrepreneurs, ça reste la vitrine économique de l'Inde. C'est une ville ultra cosmopolite puisqu'il y a eu depuis toujours des populations venues de partout et de très très loin quelquefois pour venir y travailler. Et puis et enfin Bombay, ça reste la ville de Bollywood. Donc ça reste la ville, une ville des dans un pays, disons, où les images, où les récits, où les histoires font rêver, où les mythes et les épopées vous prennent. Il y a en plus ce monde, j'ai envie de dire, du cinéma et des grandes figures qui continuent à faire rêver. Disons qu'à Bombay, on peut un jour peut-être devenir célèbre. Donc il y a quelque chose qui est très très fort à Bombay. C'est une ville des possibles. Et à nouveau, toutes les villes de l'Inde et toutes les mégapoles de l'Inde ne sont pas nécessairement des villes des possibles. Je pense que Calcutta, Delhi, Chennai ont d'autres imaginaires, véhiculent d'autres imaginaires que celui de Bombay. Mais Bombay, voilà, a cette chose qui vous happe, qui sa frénésie aussi. Bombay va très très vite. Hein. C'est une ville où on va vite, alors que l'heure en Inde est une durée qui se vit très différemment selon le lieu où on est.
C'est un autre espace-temps.
Absolument. Et donc, quand on arrive à Bombay, on est happé par cette espèce de particularité, de ce rythme tout à fait propre et de cette bigarrure incroyable qui constitue la ville où on va rencontrer chaque seconde absolument tout et tout le monde, toutes les communautés, toutes les religions, toutes les possibilités. Et c'est ça qui est très, très fascinant.
Alors, moi, j'ai pensé à une boîte de Pandore aussi, parce que c'est vrai qu'il y a la métamorphose et il y a la foule. Londres, dites-vous, la foule en ordre travailleuse ne fait que traverser la rue. Bombay, la foule en désordre s'y déploie, bruyante, Londres et ses folies contrôlées. Voilà. Donc, il y a une opposition qui voit très vite, hein, Shiv, parce que finalement, il y a une part de lui-même qui est restée à Londres, et une autre part qui est en Inde, à Bombay, qui est là. Et on ne sait pas s'il va se retrouver, finalement. C'est ça aussi, c'est l'histoire un peu d'un retour aux sources qui n'est pas forcément réussi, d'ailleurs. Hein. Il y a le risque de ne pas réussir ce retour en source, Marie Saglio.
Complètement. Et comme vous avez dit, il y a effectivement une histoire dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en retrouvant sa ville, Bombay va révéler à Shiv sa propre histoire. C'était un peu l'idée de ce roman. Shiv qui est parti après une série d'attentats, puisque Bombay, à partir notamment des événements de 1992 et 93, va commencer à vivre une série de violences avec un raidissement notamment des oppositions entre population hindoue et population musulmane, largement attisées évidemment par les politiques nationalistes hindoues. Et donc cette ville qui jusqu'à présent laissait cohabiter ensemble toute sa diversité d'habitants, tout à coup va se raidire et devenir violente. Et donc Bombay en 2008 vit encore un attentat très important, celui du Taj dont on a beaucoup entendu parler ici, et qui la laisse littéralement sur le ventre avec une série de tueries dans son centre touristique. Shiv va décider de partir parce qu'à ce moment-là aussi, il est à un moment de sa carrière où il a d'autres possibilités et il est à un moment où il n'y a plus de suite possible dans son histoire d'amour avec cette jeune femme Parsi, voilà, dont il est fou amoureux.
L'aller, c'est
voilà,
ça.
Voilà, l'aller. Et il part donc parce qu'il sent que voilà, quelque chose s'arrête, mais il part aussi parce que tout à coup les choses lui échappent à Bombay. Tout à coup il y a une violence qui va devenir trop importante pour lui, non seulement dans la grande histoire de Bombay, mais dans sa petite histoire personnelle. Hein. C'est ça aussi l'histoire de ce livre, c'est-à-dire qu'il voilà, y a la grande histoire politique et sociale de l'Inde, et puis une histoire plus familiale, hein, qui est celle de Shiv, qui tout à coup ne comprend plus et qui n'arrive plus plus à retrouver ses repères dans cette ville qui devient folle et dans sa vie qui devient folle. Et donc, il part à ce moment-là et lorsqu'il revient, finalement, il revient non seulement avec un mandat de la part de sa compagnie, hein, il doit travailler sur l'assainissement de la grande décharge de Bombay, mais il revient aussi pour affronter finalement ses fantômes. Et ses fantômes, ça va être son histoire personnelle, celle d'un orphelin qui n'a pas bien compris comment et pourquoi il avait perdu son père, et celle d'un amoureux éploré qui n'a pas non plus très bien compris pourquoi il avait perdu la femme qu'il aimait.
Donc il a la recherche de ses fantômes, fantômes amoureux, fantômes de sa famille aussi. Oui. Et puis il y a cette décharge. Est-ce que Bombay est une ville poubelle ? Je ne sais pas, mais c'est cette multitude, c'est-à-dire vous décrivez vraiment... Je sais pas, c'est pas la caverne d'Ali Baba, mais c'est presque ça, dans un autre sens. Il y a la foule humaine et la foule des débris. Vous dites, la décharge est une mine, elle fournit la ville, elle nourrit le bidonville, elle grandit aussi. Les déchets non utilisés servent de remblai et poursuivent l'avancée du terrain. Donc on a l'impression d'un cœur vivant, voilà, ce remblai qui est en train, une sorte de masse qui crée les personnages. Les personnages sont issus de ça, ils vivent de ça. Vous décrivez le monde des chiffonniers, par exemple.
Complètement. Je rappelle quand même que Bombay a la particularité d'avoir la moitié de sa population qui vit dans les bidonvilles. Hein.
Voilà.
Ce qui est quand même, là aussi, une des particularités de cette mégapole. Et c'est un taux qui est bien moindre à Delhi ou à Chennai. Et ce qui est tout à fait étonnant, pas pour le chercheur que je suis, mais peut-être pour l'observateur ou le spectateur un peu plus éloigné, de voir que cette ville qui reste le cœur économique de l'Inde est aussi celui qui met sur les trottoirs et dans ses bidonvilles la moitié de ses habitants qui vivent donc dans des interstices. Alors il y avait souvent le chiffre qui a été donné pendant très longtemps qui était finalement la moitié de la population de Bombay vit sur 10% de son territoire. Mmh. Dans ces zones aussi qui sont en principe des zones non constructibles, hein, vous en parlez avec la citation que vous avez donnée, le Bombay est d'abord issu de cette petite île qui se sont rejointes avec des formes effectivement de remblais. Il y a donc une espèce d'idée que la ville mange hein, sur la mer, hein, la ville arrachée à la mer, comme le dit si joliment le poète Kolhatkar, qui est le grand poète marathi de Bombay, et donc Bombay est avant tout ce cœur battant qui grossit, mais il est aussi ce cœur de déchets. Qu'est-ce que c'est que ces remblais qui viennent grignoter et continuer à grandir sur la mer, où viennent finalement se habiter des populations qui viennent travailler à Bombay depuis des dizaines d'années. C'est ça le cœur de Bombay. En tout cas, c'est celui que moi je connais bien, et ce n'est pas nécessairement celui qu'on montre en général de Bombay.
Alors vous écrivez, bon, par exemple, la poubelle possède ses habitants. Ou as-tu remarqué quelque chose ? On ne voit que des femmes et des enfants ici, peu d'hommes, certainement. Shiv a en tête l'horrible nombre 200 000 chiffonniers à Bombay, selon les statistiques officielles. Lénine lui a appris à compter. Cela fait donc le double, donc la moitié d'enfants. Donc c'est à la fois il y a de la misère, il y a de la reconstruction dans la misère, il y a le fait de vivre avec tout ça, de vivre avec toutes ces... Parce qu'il y a le système des castes, hein, aussi, qui est très présent, Marie Saglio, donc ça, on va en parler. Mais j'ai eu l'impression que c'était comme une sorte de monde fourmillant, une fourmilière vivante et qui inventait sans arrêt des vies et des personnages. Enfin, alors, pour la romancière, la primo-romancière que vous êtes, c'est quand même une source... extraordinaire.
C'est une source romanesque, c'est une source aussi de questionnement. Effectivement, ce que m'a montré toutes ces années de recherche d'abord dans ces bidonvilles, c'est qu'il n'y avait absolument évidemment rien d'anomique ou de pathologique dans un bidonville, qui est en général la manière dont on le montre. ces lieux sont extraordinairement créatifs. Parce que à partir de rien, mais vraiment à partir de très très peu de choses, finalement, des vies, et souvent alors celles qu'on pense être des vies mineures, mais qui sont en fait des vies d'une créativité absolument extraordinaire, arrivent à se construire. Arrive à se construire quelquefois des destins, voilà, comme on sait. Donc c'était ça qui m'intéressait tant aussi. Et ce qui est intéressant aussi dans ces zones, c'est que sur des petits espaces, hein, puisque la densité d'un bidonville est largement supérieure à celle qu'on aurait pu imaginer dans ces tours verticales. Hein, il y a une densité au sol dans un bidonville qui est supérieure. Donc on imagine, voilà, les uns sur les autres, ces communautés qui se mettent dans les interstices pour s'articuler finalement à la ville formelle, la ville qu'on connaît, pour lui fournir son alimentation, son recyclage, ses vêtements, etc. Tout ce qu'on trouve dans un bidonville, hein, puisque un bidonville en Inde, c'est un lieu de travail concentré. C'est bien toute la problématique d'ailleurs de la réhabilitation des bidonvilles, c'est-à-dire que on ne peut pas raser un bidonville, ça serait des dizaines de milliers de petits entrepreneurs, ateliers, etc. informels qui sauteraient, et finalement le cœur de Bombay vit avec ses ateliers. Donc c'est la particularité que je souhaitais montrer. Et il faut voir aussi que cette ville et cette vie du bidonville sont extraordinairement riches et intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'en Inde, chaque communauté, ce qui fait chaque communauté, eh bien, c'est l'ensemble de ses pratiques religieuses, rituelles, sociales, etc., qui va différencier finalement quelqu'un qui serait venu du Tamil Nadu, un autre du Gujarat, un hindou, un musulman, un jaïn, un parsi. Enfin, c'est extraordinairement complexe. Et pour garder finalement quelque chose de l'identité forte qui constitue une caste dont vous venez de parler, ou une communauté, à l'intérieur du bidonville, chacun va recréer ou poursuivre avec cette diversité de cultures qui, à nouveau, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à ce que la politique s'en empare, cohabite très bien. Parce que c'est l'Inde, j'ai envie de dire. L'Inde, ça fonctionne comme ça. L'Inde, on a des loyautés, des appartenances. On ne se marie pas avec n'importe qui. C'est ce qui caractérise, j'ai envie de dire, la population hindoue. Et ce qui a permis, finalement, une extraordinaire diversité et un syncrétisme incroyable en Inde. Effectivement, quand on met la dynamite politique là-dedans, on peut faire exploser beaucoup de choses. C'était ça aussi que je voulais montrer. C'est-à-dire un monde qui fonctionne bien, malgré sa pauvreté, mais qui fonctionne bien avec ses espoirs, qui fonctionne bien avec sa créativité, avec sa productivité aussi. Un bidonville est très productif. Hein. Mais qui aussi est aujourd'hui fragile parce qu'il y a un contexte politique qui sait pouvoir embraser tout ça.
Et puis il y a des fanatismes religieux aussi.
Forts.
Très forts. Mmh. Le monde du bidonville, dites-vous, est tenu par des contrats invisibles. Ça, j'ai bien aimé. La décharge est vivante, elle aimante tous, les hommes, les femmes, les enfants, leur vie entière. La décharge est rouge, elle fait suer les corps, elle les blesse, les saigne même. Tout un mandat, tous ont un mandat, tous ont une place à signer. Et il faut entretenir la montagne nourricière sitôt qu'elle les éjecte. Donc c'est, voilà, c'est un cœur vivant, battant, où il y a une sorte de vitalité, et il y a la loi de la survie. C'est vraiment... ça aurait pu être Bombay la survivante, hein, le titre de votre roman, Marie Glissaglio. Mais c'est vrai qu'on sent que, par exemple, un de vos personnages, « Mon vieux, tu n'as pas idée, c'est un autre monde que celui qu'on connaît, toi et moi, gouverné par autre chose. Ce n'est pas la vie, c'est la survie. Ce n'est pas un problème de logement, c'est un problème d'espace vital. C'est la loi de la décharge. C'est elle qui donne le rythme, il faut bien la traiter, s'allonger sur elle, la baiser longuement. Tu l'épouilles, tu la chatouilles et avec ton pic de fer, tu la stries et tu la soulages. Bref, cette décharge, c'est un témoin à charge et à décharge justement, mais c'est le témoin vivant. C'est le personnage presque principal de votre roman, Marie Saglio. Mm-hmm.
La décharge est certainement un personnage en soi, effectivement, et parce que ça reste le cœur qui va aimanter toutes ces populations et qui va les transformer aussi. Je crois que c'est Bombay, finalement, le personnage principal du livre. Ouais. Parce que la décharge ne vivrait pas non plus sans être articulée à la ville des beaux quartiers, j'ai envie de dire. Celle qu'on voit beaucoup plus hein, dans la littérature d'abord, et qu'on voit beaucoup plus aussi dans les séries et beaucoup plus dans les films, qui est ce Bombay, là aussi, qui a toute une histoire, hein, et qui peut être somptueux. Et finalement, les deux fonctionnent ensemble.
Les deux. Et il y a la pollution.
Alors la pollution, qui était aussi c'est quelque chose dont je voulais traiter dans ce livre, oui. Parce que Bombay vit ses limites actuelles. Donc c'est cette île qui se retrouve dans cette espèce d'entonnoir que forme Bombay arraché à la mer. Est une ville qui rencontre des problèmes de environnementaux absolument gigantesques. Donc là, j'en traite un autour de la question de la pollution des sols, notamment avec les PCB, qui est un vrai problème. Mais il y a toute la question, évidemment, du réseau sanitaire à Bombay. Il y a la question, donc dans cette ville où il y a eu beaucoup de lois, d'ailleurs, pour essayer de retirer un certain nombre d'industries polluantes. Hein. Bombay a d'abord été une ville très industrielle, hein, jusqu'à sa conversion en une ville tertiaire. Mais Bombay est une ville où effectivement il y a des problèmes de pollution graves, de même qu'à Delhi, hein, qui très souvent fait la une pour ses nuages de pollution bien au-delà de ce qui est supportable, comme dans toutes ces villes. Et c'est vrai que ceux qui vont en souffrir les premiers, ce seront ceux de la décharge, des bidonvilles et autres, qui se retrouvent directement dans la saleté, eux-mêmes d'ailleurs considérés comme des déchets. Je crois qu'il y a vraiment une espèce de métaphore filée là que j'essaye de tenir dans ce livre, qui est l'idée du déchet.
Vous dites, mais tous ces hommes, ces femmes, ces gamins, ils vont crever de ça, c'est une dioxine toxique, la population a des signes de chloracnée, et ce n'est que la partie visible, tu imagines des dégâts sur la thyroïde, le cerveau, etc. Mais il y a aussi quelqu'un de haut placé, je crois, qui va attraper, enfin il y a des morts cachées par la pollution en fait, Marie Saglio, c'est-à-dire que la pollution fait des dégâts, mais c'est un peu l'omerta là-dessus.
Il y a une forme de conscientisation par tous les personnes qui sont capables d'alerter du point de vue environnemental. Et puis, de l'autre côté, il y a tous les enjeux politiques et économiques que ça représente. Donc, moi qui ai travaillé pendant longtemps sur la question du cuir, puisque c'était l'objet de ma thèse il y a maintenant 25 ans, et qui est d'abord vécu dans le bidonville de Dharavi pour travailler sur ces tanneries. Donc, à l'époque, c'était un lieu où on trouverait des tanneries. Il n'y a pas plus polluant qu'une tannerie. Tout ce monde-là, chimique aussi, il y avait beaucoup d'industries chimiques à l'époque, à Bombay, etc. Tout ce monde industriel très polluant a en principe été sorti de la ville, hein, interdit dans la ville par une série de lois environnementales, de respect, etc., du milieu ambiant. Et finalement, dans la réalité, il y a toujours évidemment un écart entre la lettre et puis l'application de la loi. Mais évidemment, dès que vous rentrez dans un bidonville, vous allez voir des milliers de pratiques qui sont polluantes. Et puis d'ailleurs, les grands industriels continuent à déverser leurs ordures dans les lieux qu'on ne va pas regarder. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en Inde. Vous avez des lois qui sont de plus en plus restrictives et qui ont quand même pris la question à bras le corps, mais de fait, on est très 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 loin d'avoir des réglementations et surtout des applications de ces réglementations concluantes. Donc je souhaitais aussi alerter autour de ça, parce que Bombay vit aujourd'hui des limites possibles, hein, quand on voit en plus les problématiques autour des décharges qui ne sont pas les mêmes selon les villes. Mais disons qu'à Bombay, il faudrait effectivement, on ne peut pas non plus déplacer, c'est pas possible, il n'y a plus de place à Bombay, comme on le fait dans d'autres villes. On ne peut pas tout enfouir, on est dans des types de sols qui ne permettent pas du tout ce genre de choses. Donc effectivement, dans le livre, Shiv arrive avec une solution. Ça serait incinérer, créer de l'énergie pour une partie de la population qui en a besoin, et puis, pour le reste, miser sur des formes de recyclage. Donc, il arrive avec sa solution à l'occidental, et puis, en fait, il va se retrouver en face d'obstacles délirants. Et en général, la plupart des obstacles sont des obstacles humains. Mmh. Et c'était ça que je voulais montrer aussi. C'est-à-dire que là, il va se heurter à la loi du bidonville. Et la loi du bidonville, elle ne fonctionne pas du tout comme le souhaiteraient les entreprises.
Eh oui, voilà. Alors, on va faire une petite pause musicale. Et puis, on va reprendre notre conversation. Je ne sais pas ce que Flo Ducaillou nous a réservé comme musique.
Je vous ai réservé, pour commencer, émigré tamoul à Londres, Sushila Raman, paru en 2017 son disque Ghost Gamelan, et le titre c'est Spoons. Ça va durer 3 minutes.
L'émission Bibliomanie sur Radio Libertaire en présence de Marie Saglio qui vient de publier son premier roman Bombay aux éditions Serge Safran éditeur. Marie Saglio, donc nous sommes en train de présenter un peu le contexte de votre roman. Je disais hors antenne que c'était vaste, que c'était foisonnant, et je l'ai dit aussi pendant l'émission. Shiv, votre personnage principal, est donc ballotté entre deux cultures, deux passés, deux présents, deux avenirs, j'allais dire. Vous écrivez « Le voyage a été long, Shiv a survolé les montagnes vertes comme des cratères avec leurs volutes de nuages, il a vu des mers oranges scintiller sous la lune, enfin il a senti son pays approcher et son odeur de feu ». C'est un peu comme l'Etna, le Vésuve. Il y a ce côté, il y a ce côté lave presque...
Oui.
Il y a un côté comme ça hein, dans votre roman, enfin, vous évoquez comme ça Bombay qui est comme...
Bombay est brûlante, c'est volcanique, sans doute. Et puis, la décharge va brûler, d'ailleurs. Donc, la décharge brûle beaucoup de vie. Hein.
Voilà, c'est ça.
Donc, évidemment, il y a toute cette idée-là. Et Bombay a été plusieurs fois sous le feu des attentats. Enfin, voilà, il y a quelque chose autour des éléments qui sont si présents en Inde, entre l'eau de la mer qui est partout, entre qui avale aussi, entre, euh, entre ce feu des vies qui viennent se brûler à Bombay.
Le feu sacrificiel, le Gange.
Entre le sacrifice aussi, qui est un des titres de chapitre.
Oui.
Voilà, et c'est vrai que le roman est construit de ce point de vue-là comme un sacrifice, c'est-à-dire il faudra qu'il y ait aussi des pertes pour qu'il y ait une renaissance, quoi. C'était un petit peu aussi dans la structure du livre mon idée. Donc le feu, il y a une place centrale, hein, j'ai envie de dire dans la mythologie hindoue, en Inde, Agni, le feu est évidemment central, le sacrifice étant finalement l'ordonnateur central, hein, de la vie en principe de l'hindou.
Alors c'est presque, votre roman est presque, je vois la table des matières, la Marie Saglio, presque conçu comme une pièce de théâtre aussi. Je sais que vous avez écrit une pièce de théâtre. Il y a la dédicace, le prologue, le retour, les rencontres, la prophétie, les obstacles, les sacrifices, le départ, la renaissance, les dettes, et enfin il y a le glossaire. Ça c'est très important aussi pour avoir les mots pour le dire. C'est important pour vous de faire ce petit lexique à la fin du roman, ou c'est l'éditeur qui vous a suggéré cette...
Alors, ce qui était important pour moi, c'était de garder les termes qu'on ne pouvait pas traduire.
Oui.
Parce que l'Inde, voilà, a ses propres mots, évidemment, pour dire ses propres réalités, mais surtout qu'à Bombay, il y a une chose qui est merveilleuse, qui est le Bombaya, qui est cette espèce de mélange entre l'anglo-indien, j'ai envie de dire, et le reste de tous ces termes extraordinaires, qui sont empruntés d'ailleurs souvent d'abord aux langues vernaculaires, hein, c'est ça qui est très amusant à savoir, en passant par jungle, coulis et autres bungalows. Et puis les langues, le marathi du Maharashtra ou dans l'état dans lequel est Bombay, éventuellement des langues un peu plus arabo-persanes comme l'ourdou. Enfin bref, on a une espèce de patois bombayite qui est extraordinaire, et je souhaitais garder quelques-uns de ces mots parce que ce sont des mots intraduisibles d'ailleurs. Et en effet, on a beaucoup hésité avec l'éditeur, et finalement, on a proposé un glossaire alors que j'ai tendance à expliquer directement dans le texte, en fait, à quoi je fais référence. Ouais, je pense qu'on pourrait quasiment se passer d'un glossaire, mais c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir proposer un glossaire de ces mots.
Voilà, exactement. Alors, n'oublie pas une chose, toi, eux, vous vivez dans le même monde, vous parlez le Bombaya, c'est ça ?
Voilà.
Vous n'avez pas les mêmes logiques, vous ne voyez pas les mêmes couleurs, vous ne cherchez pas les mêmes choses. Chacun reste avec ses intérêts, sa vie, son Dieu. Mais c'est un beau programme, conclut-elle, en terminant par un geste de bénédiction. Je pense que c'est la mère adoptive.
C'est la mère adoptive, c'est Chantilly qui parle, oui, tout à fait. Qui finalement prévient Shiv dès le début du roman que s'il va vers la décharge, vers cet autre monde qui n'est ni celui des villages dont est issu Shiv, ni celui des beaux quartiers que connaît Shiv, eh bien il va effectivement vers un autre type de monde, de fonctionnement, d'homme, de dieu, etc. Même s'ils parlent tous le Bombaya, cette espèce de patois, ils ont d'autres intérêts.
Et vous poursuivez, Shiv est entouré de 1000 langues, le roulis du tamoul liquide comme une vague, le bengali aux sonorités suaves, les vacillations sourdes du telugu, les hindis de toute l'Inde du Nord, et surtout le marathi, je crois, claquant de son enfance qu'il n'a pas entendu ces dernières années. Donc, c'est aussi un retour aux sources d'oreilles, il écoute.
Oui.
Il y a toutes les sensations qui viennent à lui. Est-ce que vous décrivez aussi Marie Saglio ? C'est un peu la singularité de Shiv, sa solitude dans la multitude. Et ça ressort, c'est très fort, quoi. Je pense encore au fils, cela, si j'ai compris, lorsque Shiv Saheb a dormi chez nous, j'ai senti une tristesse chez lui. Il parle comme s'il ne portait personne avec lui dans sa voix. Pas de parents, pas d'épouse, pas d'enfants. Il parle seul. Pourtant, il regarde tout comme s'il ne cessait de chercher quelque chose, comme s'il avait perdu quelque chose. C'est donc lui le père, je le sentais. Ce personnage de Shiv, vous avez une inspiration dans la vie réelle ? Enfin, comment vous est-il venu ?
Tous les personnages du roman sont des composés.
Ouais.
Évidemment, de personnes rencontrées à Bombay. Et en Inde, et Shiv a la particularité d'être un personnage qui doute beaucoup, qui se pose énormément de questions. Effectivement, il y a cette recherche continuelle chez lui de quelque chose, il ne sait pas trop de quoi. Donc on l'a dit, il sait bien qu'il va être aux prises avec ses fantômes en revenant dans cette ville. Donc il va au fur et à mesure découvrir un certain nombre de choses. Et il est effectivement pour moi le composé, on va dire, de plusieurs de ces brillants indiens rencontrés à Bombay, souvent venus de lieux plus ruraux ou voilà pour travailler à Bombay, ou même pour certains qui sont partis à un moment travailler en France ou enfin en Europe disons ou même aux États-Unis puis revenus parce que les attaches, les ancrages sont très très forts en Inde et se posant toujours cette question de où est notre maison? Alors la maison en général, elle est quelque part au village, mais pour certains, il a fallu en partir et en partir longtemps pour des raisons économiques. Donc voilà, il y a tout ça chez Shiv qui reste, qui est présent et qui en fait, je crois, un composé aussi de peut-être un archétype aussi de beaucoup de ces jeunes partis travailler, revenus et recherchant toujours ce qu'est aussi l'Inde et où est leur exacte place.
C'est aussi l'Inde, enfin Bombay, cette décharge, c'est tout à l'heure j'évoquais la figure, enfin l'image un peu du volcan, de la terre, c'est la terre mère, c'est matrice en fait. Et à un moment donné vous dites soudain Shiv se sent englouti dans le ventre maternel, il est bien arrivé. Les visages se confondent dans le mouvement des étreintes et des mains retrouvées, des baisers humides mêlés au fleuve noir des cheveux. Les grands yeux écarquillés palpitent, ce sont les yeux à facettes de mille bouches, bleues, vertes et dorées. Les femmes dans leurs saris, miroitantes et protectrices, plaquent leurs enfants contre leur chair débordante. Donc on voit comme un corps, la ville est un corps.
Et bon, ben, et la ville est un corps. La figure de la mère est extrêmement présente en Inde, la figure féminine de la mère, Matrabhumi, on dit la mère, la mère Inde, Mother India, enfin, Dieu sait qu'elle est présente dans les imaginaires, dans la mythologie, dans la religion, etc. Et en même temps, je vous rappelle que dans le livre, Shiv est un orphelin au départ.
Donc
il y a cette espèce de perte
originelle
chez lui. Qui s'est en plus fait dans des conditions que lui n'a pas complètement comprises. Il a même, pour ce qui est de la perte de sa mère, il n'a même pas eu le temps de voir venir finalement cette perte. Donc c'est extrêmement brutal pour lui. Il a retrouvé beaucoup de références et d'assises avec sa mère adoptive, Shantiji. Mais au fondement, il y a quelque chose de il y a une fracture chez Shiv.
Il y a une part manquante.
Il y a une part manquante, ou en tout cas, il y a une forme de trauma. Moi qui travaille beaucoup sur ces questions de traumatisme psychique, il y a quelque chose comme, oui, effectivement, quelque chose qui est ouvert de l'ordre de la fracture et de la violence.
Et de la perte. Et en fait, en Inde, enfin, quand il retourne à Bombay, il retrouve très vite les castes, ce code que nous, on comprend plus ou pas tellement, enfin, peut-être pas. Il retrouve vite ses réflexes de caste, trop vite, il s'en veut. Il avait pourtant tourné le dos à tout ça. Donc il y a tout un code, c'est tout un code de gestes, d'attitude. Lénine, d'ailleurs, à un moment lui dit j'arrête Shiv, mais sache une chose, c'est bien plus facile d'être homo en Inde que de déroger à la loi des castes.
Cette question des castes qui est tellement présente en Inde et qui, à mon avis, est souvent mal comprise, on va dire. Pourquoi mal comprise? Parce qu'elle est considérée un peu rapidement comme un fléau, point final. Mais c'est plus complexe que ça. Enfin, on a une société qui est très, très, très organisée. Alors, évidemment, il y a toute cette part d'organisation qui relève plutôt d'un code hiérarchique religieux avec les plus purs, les plus impurs, etc., tout en bas de la hiérarchie. Et tout ce code, finalement, a été renégocié, j'ai envie de dire, par les positions, cette fois-ci, de classe sociale et autres. Donc ça s'est complexifié. Et en plus, ça s'est politisé, puisque toute la question des quotas et de la réservation positive, en fonction de la caste d'appartenance, habite l'Inde et c'est elle qui
provoque beaucoup de violence. Hein. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans l'état de Manipur il y a 3 semaines. Ouais. Voilà, donc ça c'est autour de la question des tribus, en l'occurrence répertoriées. Mais cette manière de classer la population en catégories et dont certaines ont le droit, en raison de leur appartenance à des catégories plus pauvres ou plus basses dans la hiérarchie des castes, d'avoir un certain nombre de bénéfices. Ça ne plaît pas à tout le monde, c'est la raison de ces violences. Donc, disons que la question des castes, originellement une manière de penser la société en fonction de sa position, j'ai envie de dire, dans la société, il faut quand même se souvenir qu'il y a une opposition très très forte entre d'un côté Gandhi et de l'autre côté Ambedkar, qui est le leader de basse caste qui a écrit la constitution, qui a beaucoup entre 47 et 50 plaidé pour aussi l'égalité des femmes. Enfin, c'est vraiment un des très 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 grands leaders indiens autour de la question des castes, avec un Gandhi qui disait finalement l'organisation en caste était une manière organique de voir une société qui fonctionnait avec chacun à sa place, dans des formes d'harmonie réelle. Et de l'autre côté, Ambedkar, qui lui sortait de ses diplômes entre Columbia et Londres, comme entre autres avocat, etc., et qui, enfin, jeune juriste, et qui disait que la caste, c'était une violence inimaginable, intrinsèque finalement à la pensée de l'hindouisme, dont il fallait absolument se sortir pour arriver à des formes d'égalité dans l'Inde moderne. Mmh. Et là, il y a eu une opposition en termes de valeurs, de vision de ce qu'était l'Inde, absolument radicale. Alors, pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avec des très basse castes, des intouchables, qui est entre autres la population qui travaille le cuir, matériaux impurs, etc., et dans les bidonvilles, très présente. Je travaillais aussi avec l'esprit d'Ambedkar, ce grand, c'est vraiment cet immense personnage qui lui avait une vision totalement opposée donc à l'idée d'une société organique indienne prise dans ses castes. Donc ce débat finalement est encore très présent aujourd'hui. C'est ça qui est très intéressant en Inde, c'est-à-dire que la caste fonctionne d'abord comme groupe d'appartenance, hein, comme structure sociale où finalement chaque caste, et elles sont une caste, c'est d'abord locale, c'est une réalité locale, c'est un groupe endogamique. On appartient à une caste, on est dans une caste qui a ses propres pratiques religieuses, alimentaires, vestimentaires, culturelles, qui a son propre panthéon de dieux, qui a son positionnement et qui a ses règles de mariage. Et finalement, dans un pays où vous savez que la question migratoire est immense en Inde, hein, c'est le premier pays de migration, c'est la grande diaspora mondiale, hein, bien avant les Chinois en fait. Ouais. Donc là, les Indiens finalement se retrouvent par leur caste. Hein. Et ça, j'ai envie de dire, toute société a sa manière de se reconnaître et de s'organiser avec ses propres ordres sociaux. Donc, il y a cette structure sociale, finalement, qui n'est pas qui est une donnée sociologique. Et puis, il y a ensuite tout ce qu'on a fait de la caste, c'est-à-dire les castes, effectivement, qui vont promouvoir des formes de violence entre castes et qui peuvent être extrêmes, même si, en principe, la constitution indienne interdit toute discrimination à partir de la caste, sur la base de la caste, mais à nouveau, hein, entre la loi et entre la lettre de la loi et les pratiques, on est très loin. Et les violences de caste sont extrêmes, c'est ce qu'on appelle les atrocities dans les journaux indiens, où effectivement, parce qu'on est d'une basse caste et parce qu'on a osé approcher le puits du village central, le ghat du village central, ou même la fille du voisin qui elle est d'une caste supérieure, eh bien on vous brûle et on viole vos femmes. Enfin, c'est extrêmement violent. Et puis la caste est ensuite très politisée continuellement et va fonctionner comme des groupes d'intérêt finalement qui aujourd'hui dans une politique qui vraiment fonctionne à partir de ces intérêts de groupe, des intérêts communalistes, etc. Et en fait finalement ça devient un rouage qui ne va faire qu'alimenter ces formes de violence. Donc voilà, entre la réalité sociale qui a une forme de positivité parce que c'est un monde de pratique, une caste, et puis le fonctionnement actuel qui fait des groupes finalement très inégaux, dont certains subissent des violences extrêmes en raison de leur caste, et des groupes politiques, puisque chaque caste a son intérêt autour de la question des discriminations positives et du monde de vote électoral indien. Il y a effectivement beaucoup de questions autour des castes aujourd'hui.
Bon, on va faire une petite pause musicale et puis nous reprenons notre route vers Bombay.
Alors là, cette fois, c'est la fille de Ravi Shankar, Anushka Shankar. C'est un disque paru en 2019 et c'est le disque Reflection. C'est un raga, c'est une improvisation méditative. Elle est devenue une virtuose du sitar. En plus, elle est belle, elle est à couper le souffle.
Voilà, bon, nous poursuivons notre conversation, Marie Saglio, autour de votre roman Bombay. Vous avez écouté de la musique, là. C'est vrai que c'est un autre espace-temps, rien que par la résonance qu'on appelle le bindou, je ne sais pas, mais cette sorte de résonance comme ça qui vous... En écoutant cette musique, par exemple, quelle est les... Pour l'écriture, vous avez écouté de la musique quand vous avez écrit, par exemple, votre roman, Marie Saglio ?
Alors, un autre espace-temps complètement. Il y a beaucoup de sons, dans, je crois, dans mon livre, et d'odeurs, oui, etc. Oui, pour oui. moi, c'est vraiment la question... Enfin, Bombay est sensible avant tout, toute chose. Là, on parle de choses très sérieuses et des catégories. Voilà, mais Bombay, c'est effectivement d'abord un monde dans lequel on se plonge et on est plongé. Et l'Inde est d'abord ça, hein, vous prend d'abord par ses odeurs, par ses bruits, par ses musiques, par ses formes de respiration, comme vous avez dit, ses battements, ses résonances, hein, c'est vraiment
par
c'est
ses mains
ça.
qui vous approchent, qui vous appellent, voilà, le regard
très,
aussi
très oui, alors le regard avec évidemment tous les codes du regard, hein. Mais Bombay est d'abord très très sensuel. Est un monde de sensualité. Alors oui, bien sûr, oui, vous me posez une très bonne question, parce que ce livre m'a... J'ai fait beaucoup de parties en musique, et là, je suis quelqu'un, de ce point de vue-là, en termes de musique, hyper obsessionnel. Et pour moi, il y avait deux types de musique continuelles qui se répondaient pour ce livre. D'un côté, la musique un peu criarde, et en même temps, complètement hallucinante de certains films bollywoodiens. Donc, je cite tout le temps Dil Topagal Hai, qui est une musique, voilà, qu'on a entendue tout le temps. Mon cœur est devenu fou, qui est un des grands films, voilà, hindi, bollywoodien. Et puis, dans le genre aussi, il y a par exemple toute la musique du film Bombay, qui s'appelle Bombay, qui est sur les émeutes de 92, qui est d'ailleurs un très bon film. Et puis, vous avez bien d'autres musiques, dont les musiques de Maniratnam, etc., qui sont hyper connues, mais qui vous transportent dans ce monde de Bollywood, de chants, de danse, de couleurs hyper chromo, etc., mais qui est un des aspects de Bombay. Et de l'autre côté, une musique qui, moi, me prend aux tripes, hein, parce que c'est vraiment la musique que j'ai entendue tout le temps, cette fois-ci de manière beaucoup plus intime, qui n'est pas encore la musique qu'on vient d'entendre, qui est en fait la musique des percussions de village, etc., et la musique qu'on chante dans les mouvements beaucoup plus... Dans tous ces mouvements, Varkari, par exemple, qui sont les mouvements des pour les humbles, des mouvements où il n'y a plus de question de caste, qui sont des mouvements, en fait, où l'adepte est un adepte de la bhakti, donc de la dévotion, et il a directement accès à son dieu sans passer par les hiérarchies brahmanes et autres. Et donc, il y a toute une musique extrêmement belle, avec des voix très, très puissantes, et en général des percussions indiennes, que j'écoutais en boucle. Et si elles sont maintenant... Alors, à l'époque, quand j'ai découvert ces musiques, on ne les avait pas encore, évidemment, pas numérisées, etc. Elles étaient... quand, il y a 30 ans, il fallait aller dans les petits temples de village pour les écouter, ou dans les temples de Bombay, qui étaient ceux du temple Varkari. Dans le livre, il y a un temple, un petit temple, à côté du bungalow, oui, oui. Où va continuellement la servante de l'histoire, mais qui est un temple tout doux, d'ailleurs, où il n'y a pas de violence dans ce temple. Enfin, c'est d'autres formes de religiosité... Qui infiltre complètement le quotidien de l'Inde. Et il y a des musiques sublimes et des voix très puissantes, accompagnées effectivement souvent de percussions, notamment les tablas, hein, qu'on connaît bien, que j'ai beaucoup écouté pour écrire.
Oui, voilà, on le sent, parce que bon, c'est un roman, nous ne parlons pas d'un livre universitaire et théorique sur l'Inde, c'est un roman où le vivant a son importance. Vous écrivez, Shiv se dit qu'ici les éléments continuent de mener le monde, rien à voir avec cette Europe qui semble avoir tout domestiqué. Donc on est dans le sauvage, on est dans chacun sa vie, on est dans la débrouillardise, on est surtout dans la survie. Pour revenir au caste d'ailleurs, parce que je trouve que ça ne m'étonne pas que vous ayez écrit une pièce de théâtre, parce que votre roman est fait de silhouettes, de gestes, de mouvements. Et justement, pour revenir au caste, à un moment donné, vous écrivez « On ne salue pas un supérieur en Inde, si on n'a pas à s'entretenir, on s'écarte. » Donc il y a une phrase qui décrit le fait de passer, de passer sa route. Mm-hmm. Voilà. Et c'est vrai, votre livre, votre roman est fait, voilà, de ces codes tacites, silencieux, non dits, et parfois tragiques, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'il n'y a pas les mots forcément pour le dire. Mais c'est ça aussi le roman. Je pense que c'est pour ça que vous, en tant qu'universitaire, vous êtes tourné vers la fiction.
Complètement. En fait, je cherchais à dire ce qui est compliqué à dire dans le langage universitaire.
Je cherchais en fait à faire sentir. Mmh. Voilà, donc vous venez de très bien de le dire. C'est-à-dire que dans le langage universitaire, c'est plus compliqué de faire sentir un monde en fait qui d'abord se vit, se perçoit, s'éprouve. Bien avant de pouvoir commencer à théoriser un certain nombre de choses, le monde de la caste, les violences intracommunautaires, etc. Enfin, tout ce qu'on fait quand on est universitaire, on va dire. Mais l'idée, c'était effectivement d'arriver à faire sentir aujourd'hui le monde de Bombay et son ventre, ces fameux bidonvilles et les décharges où il se passe énormément de choses et où des vies s'inventent sans qu'on même l'imagine, quoi. Donc, d'abord par tout ce qui est de l'ordre de l'affect, c'était un peu mon but, et essayer de montrer ces codes qu'on apprend lentement en Inde. Il faut y vivre longtemps pour le comprendre. Et d'ailleurs, Shiv doit plonger dans le bidonville pour essayer de commencer à y comprendre quelque chose.
Oui, il se plonge dedans, et je dirais que votre roman, c'est l'anti-tourisme. Enfin, je veux dire, on est plongé dedans. Par exemple, vous écrivez Shiv, c'est ce qu'il doit retourner immédiatement, donc il doit retrouver immédiatement sa prestance, car les premiers échanges sont en Inde une véritable inquisition, un jeu de stratège. La jauge est réciproque, elle permet de décider d'un rapport d'égalité, de mépris ou de révérence. Soit on vous adopte, soit on vous fait comprendre que vous n'êtes pas du même rang. Donc il faut tout de suite être dans le... Il y a des règles du jeu.
Il y a des règles du jeu constantes qui sont très liées effectivement à cette structure de caste. Ouais. Et qui effectivement font que très immédiatement, dans les premières interrelations, il y a un jeu effectivement de position, de classement, etc. pour que les deux interlocuteurs finalement se placent, arrivent à se connaître. Et la reconnaissance, elle est d'abord là, c'est-à-dire qu'on sait à qui on a affaire. Est-ce que c'est un égal ou est-ce que c'est quelqu'un d'une caste inférieure ou supérieure? Et en fonction. On va continuer à s'entretenir ou pas, d'ailleurs. Ouais. Donc, effectivement, il y a continuellement ce jeu-là qui est très, très lié, bien sûr, à une structure d'abord très codée, très hiérarchique, multiple, avec des mondes qui, quelquefois, cohabitent, certes, mais ne se rencontrent pas.
Hein. Mais vous le décrivez sans jugement, je veux dire, c'est comme ça. Voilà.
C'est comme ça.
La règle du jeu, elle est comme ça. Par exemple, les chiffonniers, ce sont plutôt des banguis, le nom de casque pour désigner les fouilles, la merde. Ce nom siffle comme une insulte et il recèle une seconde violence pour les intouchables, car il les confond tous, eux et leur métier, avec mépris, éboueurs, extracteurs, ferrailleurs, recycleurs, triqueurs, alors que chacun revendique son savoir-faire, son lignage, son territoire. Respecter la hiérarchie indienne, c'est ne supporter aucune confusion. Mm-hmm. C'est vraiment le... Je dirais l'art de la nuance. Hein. Là, il faut que chacun...
Chacun est à sa place. Chacun a sa place, mais il faut s'y tenir. Et quelquefois, ce sont des places, des très, très basses places, écrasées par cette hiérarchie. C'est une particularité indienne qui n'est pas nécessairement la particularité d'autres cultures. Hein. Pour avoir vécu de nombreuses années au Brésil,
oui.
Le fonctionnement est inverse. C'est-à-dire qu'il y a une culture du mélange au Brésil. Même si le racisme et la question de la race sociale est construite comme un nouvel indicateur d'inégalité et de violence, hein, et d'hiérarchisation. Mais disons que ce n'est pas du tout le même qu'en Inde et sur la question des castes où il n'est pas question de mélange. Il n'y a pas de mélange.
Donc chacun vit à côté de la différence, voilà, de l'autre, c'est ça.
Et la société fonctionne comme ça, puisque chacun à nouveau participe, j'ai envie de dire, de cette grande organisation sociale. Mais le principe, c'est que à chacun sa place, son rang, son métier, son statut. Et non, il n'y a pas de mélange, parce que dès qu'on mélange le pur et l'impur, y a du désordre.
Ouais.
C'est aussi une idée, là, très forte dans le livre, où finalement, un des dons, donc un des grands mafieux de la décharge, va dire à Shiv, toi, tu mélanges les choses. Et ça, c'est pas possible chez nous. Et c'est autour de ça que le jeu devient extrêmement risqué, d'aller mettre son nez dans la décharge et dans ses règles.
Oui, bien sûr. Vous dites, Shiv lui est né dans la bonne maison. Shiv porte ses doigts difformes comme un signe distinctif. L'autre porte les siens comme une infamie. La route devant Shiv lui ouvre un monde des possibles. Celle de Mukur est à sens unique et termine sur une impasse. Donc vous montrez bien la différence entre chaque vie, chaque personnage, chaque condition humaine, chaque impasse en fait, parce que puis certains vont s'en sortir, d'autres pas, et voilà. Et alors, il essaye de retrouver l'allée, donc son amour de jeunesse, et c'est pas du tout évident. Hein.
Bah non, Parce que là aussi, il y a une histoire de caste et de communauté. Alors, l'Alais, elle appartient à la communauté, c'est pas une caste, hein, elle appartient à la communauté des Parsis.
Les Parsis, oui.
Voilà, donc ces castes venues d'Iran et qui aujourd'hui sont à Bombay comme dans leur lieu de vie le plus important. Hein. C'est une communauté extrêmement resserrée, petite et en même temps très puissante. C'est une communauté hyper éduquée. On en connaît certains grands industriels et entrepreneurs fameux. Mais elle a toujours été là, dans le Bombay puissant, j'ai envie de dire, cette caste. Donc l'Alais en est issu.
Ouais.
Alors Shiv, lui, est un brahman. Hein, il est d'une des sous-castes brahmanes. Mais il n'est donc pas parsi. Et puis il y a des règles de mariage, des règles qui font qu'en principe, une femme parsi, on ne la laisse pas partir si facilement de la communauté parsi. Donc l'histoire de l'Alais que j'explique un petit peu fait qu'à un moment, elle ne va pas pouvoir se marier avec Shiv et ça va être la raison du départ aussi, une des raisons en tout cas du départ de Shiv et de sa mécompréhension, c'est-à-dire que lui bloque, lui qui est un homme moderne, lui ne comprend pas pourquoi là-dessus, alors que Bombay lui a été ouvert, disons, il ne peut pas continuer sa vie avec la femme qu'il aime. Ce sont les lois de la caste et les lois des communautés qui pour l'instant l'en empêchent.
Oui, alors vous écrivez, Shiv comprend que c'est peut-être la violence de Bombay qui lui a pris l'aller. C'est la femme qu'il aime qui lui permet de partir et de revenir. Mm-hmm. C'est elle, c'est un peu le... aujourd'hui, le retour à Bombay est d'autant plus difficile que Shiv n'y retrouve rien. Il ne retrouve plus l'aller comme avant, lorsque Bombay était synonyme de son héroïne. Sa présence l'avait accompagné dans ses missions. Après, vous rajoutez, il décide alors pour lui-même, en tout cas, car cette ville n'a aucun intérêt sans l'aller, c'est elle qui justifie tout, le sens de mon retour ici, l'aller, j'ai les mains vides et je cherche ta main, ici sans toi ce n'est pas possible, je voudrais mêler mes doigts aux doigts de ta main, mes doigts imparfaits à ta main parfaite. Voilà, donc c'est le roman d'une impossibilité, mais en même temps de connaissance de son passé, puisque finalement il va parvenir à comprendre un peu son histoire, Shiv.
Oui, il va comprendre au fur et à mesure son histoire par une série de péripéties quand même. Hein. Voilà, ouais. Il va y avoir un certain nombre de choses qu'il comprend. En tout cas, il va au bout d'une recherche qu'il n'a pas pu effectuer à l'époque, qu'il n'a pas pu faire. Parce que cette fois-ci, il y a une obligation pour lui d'aller jusqu'au bout. Il lui arrive donc plusieurs péripéties. D'abord, les hommes de la décharge vont lui révéler un certain nombre de secrets
oui.
auxquels il n'a pas eu accès. Quelque part, Shiv a été protégé de ce monde de violence parce que Shantiji a voulu, donc la grande, sa mère adoptive, qui est aussi une grande travailleuse sociale, a voulu le protéger d'un certain nombre de choses. Mais il va donc apprendre la violence qu'ont subi la fille de Shantiji, hein, dont il était proche à l'époque et qui est partie aux États-Unis. Il va comprendre aussi dans le fond pourquoi elle est partie. Voilà.
Ouais, il comprend. Mmh. Alors, il y a plusieurs lieux, parce que votre Bombay, c'est fait de plusieurs lieux, plusieurs territoires. La maison, par exemple. Vous dites, la maison en Inde est une dynastie avec ses lieux, ses héritiers, ses légitimes, ses incestueux, ses adoptés, ses ancêtres, ses fantômes, sur plusieurs générations. C'est vrai que le lieu de la maison, qui est toute petite, hein, souvent, c'est aussi un lieu de... on travaille, ça peut être aussi un lieu de travail, la maison. C'est très important. Donc, Bombay, c'est sa maison, sa première maison.
Alors Bombay, effectivement, c'est symboliquement, oui, c'est sa maison. Autrement dit, c'est là qu'il y a ses appartenances et ses loyautés. Dans ce monde-là, j'ai envie de dire, effectivement, les lieux sont habités par des générations, par des histoires, par des secrets, mais aussi à nouveau par ces loyautés qui vous constituent. Alors pour un hindou, c'est aussi la loyauté avec les ancêtres, c'est la loyauté avec les dieux, c'est la loyauté avec autant de choses qui vont constituer le lieu hein, et l'âme du lieu. Donc ce bungalow là, qui
oui.
Biramal Mansion, qui est le bungalow dans lequel vit Chantigi et dans lequel Shiv va la retrouver, c'est sa mère adoptive, est un bungalow qui porte toute une histoire à la fois politique, sociale, religieuse, qui est très très particulière. Effectivement, l'âme des lieux est très très forte.
C'est fort, même il y a aussi la cahute d'une accoucheuse à un moment donné, que vous décrivez avec les bocaux. Enfin, chacun reconstitue son univers.
Son univers.
Dans un tout petit espace. Et puis, il y a un autre espace, c'est le train. Alors là, c'est l'univers du train. Le train est une ville. Il a son quartier honteux et c'est miséreux. Les hommes démembrés rampant aux genoux des passagers et qui viennent s'y frotter pour quelques centimes. Ces visages n'ont pas droit à l'existence. Ils ne prendront pas ce droit. Leur regard est marqué du sceau de la misère. Alors le train, c'est, il y a une scène, hein, il y a tout un épisode où on voit ce... déclencher hein, les fanatiques, ce que vous appelez les vigilants. Mm-hmm. Qui sont les vigilants d'ailleurs, Marie Saglio ? Est-ce que vous pourriez nous les présenter ?
Alors, oui, vous avez parlé du train, et il y a effectivement un événement qui se passe autour du train.
Le conducteur qui va écraser, je crois, une vache ou quelque chose comme ça. Alors que c'est un interdit, alors vraiment, c'est vraiment quelque chose de... C'est pas possible, donc il risque la mort.
Donc immédiatement, se forme un attroupement de vigilants. Les vigilants, ce sont ces espèces de milices fanatiques... dont l'actuel parti politique au pouvoir et toutes ses ramifications se plaît avec lesquels tout ce parti politique se plaît à travailler et à continuer de galvaniser, j'ai envie de dire, la population. Autrement dit, l'idéologie qui travaille ces vigilants, c'est l'idéologie d'une Inde hindoue qui doit revenir aux hindous et qui doit respecter tous les codes hindous, dont les codes du pur et de l'impur, dont les codes finalement qui l'opposent radicalement dans toutes ces pratiques aux autres parties de la population qui ne seraient pas hindous, autrement dit, pour ce qui concerne l'Inde, les musulmans, les chrétiens, pour parler des deux premières. Aujourd'hui, depuis maintenant, j'allais dire le 1920, hein, depuis que l'Hindutva est apparu comme idéologie, mais beaucoup plus fortement depuis que tout ça, cet Hindutva est concrétisé, est au pouvoir dans des partis politiques établis qui professent l'Hindutva, l'hindouité, autrement dit l'Inde aux hindous, et pas l'Inde aux indiens, l'Inde aux hindous, il y a ce vent de radicalisme, et les vigilants, ce sont donc c'est souvent des jeunes qui n'ont pas grand-chose à faire, mais qui trouvent là une raison de se battre, une raison de continuer, etc., viennent en gardien de la morale, hindoue, systématiquement interdire toute pratique qui serait contraire donc à l'orthodoxie brahmanique hindouiste. Je mets des istes partout parce que vraiment, en étant l'idéologie pure, on est bien loin de la religion hindoue qui est une religion beaucoup plus syncrétique et tolérante hein, que ce que veut bien le dire, et c'est bien le drame d'ailleurs, l'hindouisme actuel est extrêmement violent. Et donc, les vigilants sont là pour battre la campagne, pour aller partout dans les villes et voir ce qui est contraire aux lois. Donc parmi les lois, une des lois quand même votées par le gouvernement national et que certains États ont ensuite voté, typiquement l'État du Maharashtra a adopté, il y a par exemple le beef ban, autrement dit l'interdiction de commercialiser, transporter, évidemment manger de la vache, mais en fait toute viande bovine, hein, pour aller plus rapidement. Et donc cette loi est absolument terrifiante parce que elle va directement contre les pratiques des musulmans. Alors la question de la vache, de toute façon, elle est réglée en Inde. On ne touche pas à une vache en Inde. C'est sacré et on ne consomme pas de la vache. Mais en revanche, évidemment que les musulmans consomment du bœuf et évidemment qu'une carcasse de bœuf au milieu d'un village où on a faim, en général, va pouvoir être mangé va être consommé par les très basses castes, etc. Ça, tout le monde le sait. Donc la question, c'est en attaque. Disons des pratiques autour de la consommation de la viande de bœuf et de son transport, etc. Eh bien, on ouvre la voie à des violences extrêmes, hein, puisque
dans votre livre, c'est le conducteur du train, donc qui
risque de se faire lyncher. Mais il y a un lynchage aussi dans le livre.
Il y a un lynchage à cet instant. Shiv, Lénine et tous les autres comprennent le train, les vaches. Si une bête a été touchée, c'est la mort du conducteur. Mmh. Les cris sont tout près désormais. Donc voilà,
il y a ça.
Donc c'est assez fort parce que voilà, on voit le tout d'un coup. Ça se complique sérieux.
Alors, ça, c'est un événement que j'ai vécu. Tout ce qui s'est passé, oui. Tout ce qui se passe dans ce livre, j'ai vécu tous ces événements.
Ouais.
Y a pas de fiction, j'ai envie de dire, parce que pour une chose très simple, c'est qu'en Inde, la réalité dépasse largement la fiction. Je pense qu'on n'a absolument pas besoin d'imaginer plus.
Ouais.
La réalité est en général totalement débordante. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que oui, d'abord, il y a la foule. La foule en Inde est quelque chose d'inimaginable. Et qui, puis en une seconde, on le sait suffisamment avec les débordements dont parlent les médias et le nombre de morts chaque fois qu'il y a un pèlerinage qui prend mal finalement la foule peut engloutir, peut tuer, peut voilà la foule comme collectif est quelque chose de qui peut être très dangereux.
Ouais, ouais.
Et en Inde, c'est tout à fait explicite. Ça m'évoque les grands débordements d'Ayodhya en 92 qui ont provoqué finalement la vague de terreur safran hindouiste-hindou. Ensuite, voilà. Et puis cette histoire du lynchage est quand même quelque chose qui est très très présente en Inde aujourd'hui. C'est-à-dire que le retour avec ces fameux vigilants, ces espèces de milices qui obéissent aux partis politiques nationalistes hindous radicaux et à l'idéologie de l'hindouité. Toute cette violence ne cesse de se vivre dans les événements du quotidien. Et moi, j'ai un souvenir extrêmement fort que je voulais mettre dans ce livre, mais qui se passait plutôt dans un bus. C'était le souvenir d'un trajet entre Kolhapur, qui est une ville du sud, et Pune, puis Bombay. Donc un long trajet. Et j'ai le souvenir que le bus, qui était en l'occurrence un bus municipal, conduit par un conducteur municipal, voilà, qui était plein, a croisé trop rapidement un camion qui était un camion de travailleurs et qui ramenait une grappe entière de travailleurs qui étaient dans ce bus beaucoup absolument bondé, un camion bondé de personnes, et un homme est tombé. Et j'ai le souvenir, mais d'effroi, de stupeur en fait, qui a pris le bus dans lequel on était, parce que le bus s'est arrêté, le camion s'est arrêté, et les travailleurs du camion sont allés chercher le conducteur du bus, et c'était un début de lynchage. Et je me souviens de cet effroi inimaginable où autour de moi, ce qui pouvait se dire, c'était « il va se faire lyncher ». Cet homme, parce que voilà, il venait de faire une faute énorme, et c'est cette espèce de règlement de compte par la force physique et visible extrêmement violente. Le lynchage est quelque chose d'ailleurs qui est revenu aujourd'hui en Inde, c'est-à-dire que il y a des lynchages systématiques pour par exemple les musulmans qui n'auraient pas respecté le bifban ou qui seraient pris en flagrant délit de je ne sais pas quoi, conduire de bœuf dans le mauvais champ et du coup de se faire attraper parce que soupçonné de par exemple de vouloir les vendre pour la consommation. Donc il y a depuis 2014 continuellement le retour du lynchage, ce qui est extrêmement problématique parce que c'est probablement le mode le plus archaïque de règlement de compte par des milices où il y a une espèce de loi locale qui a toujours existé en Inde, mais qui est là et littéralement tolérée, j'ai envie de dire, par les forces de l'ordre, par les lois aussi, et qui permet finalement de régler son compte à ceux qui ne suivraient pas l'hindouité, le lynchage étant la forme la plus visible et la plus physique de ces règlements de compte.
Alors, il y a beaucoup de scènes, je parlais de théâtre, des portraits, vous avez vraiment l'art du portrait, et dans le portrait, il y a tout. Par exemple, la lépreuse. Une lépreuse se tient en croix au milieu de la route, bras tendus. Elle s'offre au regard éperdument. Elle quémande non plus aux hommes, non, ceux-là l'ont oublié. Elle supplie les engins de ferraille. Elle approche et attrape de ses deux moignons la pièce qu'on lui jette. La vie violente surgit dans les corps dévastés. Des hommes en guenilles sur la chaussée se ruent sur un sac oublié. Ils s'emparent du pain, oubliant les voitures si près, les regards, les corbeaux, oubliant tout. Donc là, il y a tout. Il y a plein de micro-scènes comme ça. Mais ça, c'est l'Inde aussi.
C'est l'Inde. Et puis, ce sont évidemment des scènes que j'ai vécues. L'histoire de ces hommes rencontrés, il y a 20 ans, en descendant des très jolies plantations de thé du Kerala, et le souvenir était celui-là, de bus en bus en bus, me retrouvant à un moment avec à l'arrière du bus des hommes de très 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 basse caste qui manifestement avaient faim, et moi leur proposant une partie de ce que j'avais dans mes sacs en plastique en termes de chapati et autres bouteilles d'eau, et l'effroi à nouveau qui moi m'avait saisi lorsque ces hommes s'étaient jetés littéralement sur le pain, mais s'étaient arrêtés net devant l'eau. Mmh. Est-ce que de ton eau j'ai le droit de la boire ? Et là, ça, moi, m'avait stupéfait.
Tout le problème de l'Inde est là.
Parce qu'on est encore dans la question des codes, des possibilités ou pas, et c'est ce respect de forme de hiérarchie qui est là. Donc voilà, ce sont des scénettes effectivement, qui sont pour moi des clés pour essayer de comprendre.
Alors il y a aussi du bonheur, hein. Par exemple, c'est l'art du rien. Par exemple, il reste longtemps appelé par le spectacle des gamins qui s'amusent à faire avec de minuscules chemins, avec des restes de l'offrande pour nourrir les fourmis. Ça, c'est pour donner un exemple à nos auditeurs qui a des scènes de petit bonheur. Et puis, une sorte de philosophie, vous parlez du flegme indien, hein, Marie Saglio, à Delhi, à Bombay, à Londres aussi, tous complices, tous irresponsables, ou tout simplement des hommes, au jour le jour, dans le carpe diem de la survie et des marchés. Donc, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de jugement. La vie, elle est comme ça. La vie aussi est comme ça.
Oui, il n'y a pas de jugement et tout de même, malgré des mondes qui peuvent être très violents, il y a une immense poésie en Inde, une extraordinaire présence des choses, des hommes. C'est aussi un monde de paroles. Donc moi, c'est vrai que c'est un monde qui m'a toujours énormément nourri, fasciné, que j'aime infiniment, malgré bien sûr ces violences. Donc quand vous dites pas de jugement, effectivement, pour moi le monde indien est un monde qui malgré ces violences reste infiniment chargé de aussi de bonheur, aussi de sensations, de vie. J'ai quand même souhaité les retranscrire dans ce livre, c'est-à-dire ce n'est pas qu'un monde de la violence là.
Il y a beaucoup de scènes de vie. On n'a pas le temps de raconter l'histoire de la tout ce que va faire Shiv, ça on va laisser aux vos futurs lecteurs de découvrir tout ça. Il y a des petits clins d'œil parfois, vous remarquez, le nouveau compagnon des familles modernes s'appelle la télévision, tout simplement. Ce que je voudrais savoir, parce que c'est un roman quand même qui c'est un roman touffu, c'est un roman qui fait près de, je sais pas, 400 pages, hein. Ce que je voulais savoir, c'est en quoi vous-même vous avez été changé par l'écriture de ce roman, Marie Saglio. Il y a la métamorphose. Bombay, c'est la ville des métamorphoses. Et en quoi il y a avant l'écriture de ce roman et après ? Qu'est-ce qui vous a un peu changé à l'écriture de ce livre ? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est révélé en vous ?
C'est très drôle, votre question. Quand j'ai fini ce livre, qui m'a quand même pris des années et des années, mais ça, je suppose que tout livre prend des années, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une grande psychanalyse, pour vous dire. Voilà, donc je suppose qu'il m'a changé. Ouais. Moi-même, j'ai fait la paix avec un certain nombre de choses dans ce livre qui m'ont beaucoup travaillé, en particulier la question de la violence autour des femmes.
Oui, ça on n'en a pas parlé, mais elle est très présente
dans
le roman.
Elle est présente.
Les viols, etc.
Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'ai habité des années en Inde, donc j'ai vécu beaucoup de choses en Inde, et c'est vrai que pouvoir les transcrire à travers des personnages, pouvoir revenir sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce que c'est que les secrets des familles ? Quelles sont les choses qui sont tolérées, les choses intolérables ? Ce qu'on passe et ce qu'on ne passe pas, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, etc. Là, je pouvais aller loin là-dedans. Donc ça m'a évidemment apporté ou ça a sans doute changé quelque chose. Et puis, en plus, à côté de tout ça, il y a quand même le fait de passer au roman, effectivement, et qui vous offre, et là, c'est pour moi une immense découverte et c'est un plaisir absolument extraordinaire, c'est que le roman permet une liberté totale et permet aussi une grande liberté avec soi-même, c'est-à-dire qu'on peut, on peut aller explorer énormément de choses autour de ce qu'on a perçu, vécu, senti. Donc oui, je pense qu'un roman, en tout cas un roman comme celui-là, change sans doute son auteur, lui permet de, voilà, d'aller plus loin avec probablement avec lui-même et avec ce qu'il a envie de dire d'une réalité.
D'une réalité. Est-ce que, quelle était la réaction de vos lecteurs? Est-ce qu'il y a des lecteurs voilà, en Inde qui vous, enfin je sais pas, mais quelle était la, est-ce qu'il y a des réactions, voilà, de gens qui connaissent Bombay et qui ont lu votre roman et qui...
Alors pour les réactions des lecteurs les plus proches, j'ai envie de dire qu'ils connaissent très 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 bien Bombay, puisque ce livre a circulé un petit peu en Inde et en tout cas parmi les lecteurs francophones qui pourraient le lire. Les réactions m'ont beaucoup touchée parce que c'est des réactions qui ont permis de voir que dans ce livre il y avait la volonté de, à travers une histoire, la petite histoire disons, essayer de retracer quelque chose d'un peu plus fort et plus large sur ce qu'était en train de vivre l'Inde, puisqu'il y a quand même quelque part une alarme aussi dans ce livre autour des formes de violence qui peuvent devenir complètement explosives. Et donc les réactions ont été plutôt bonnes. Moi j'avais une vraie question, était est-ce qu'on laissera finalement Marie Saglio, qui n'est pas Shakti Vindalagam, écrire sur l'Inde,
oui,
parce que finalement je n'ai pas la légitimité de celui qui est né en Inde, etc. Et de ce point de vue-là, finalement, ce livre a été bien reçu, et je dirais même que le décentrement finalement, le fait que je ne sois pas directement plongée dans l'Inde, a été plutôt bien perçu.
Voilà. Est-ce que vous avez des modèles d'écriture, des écrivains
J'en ai plein.
Alors lesquels?
J'ai des livres qui m'ont intensément marqué, mais je vais pas, ça serait une folie là de m'y mettre, en passant par Faulkner jusqu'à Dostoïevski. Mais il y a deux livres en fait qui ne sont pas du tout connus et que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à rappeler. Parce que ce sont des références pour moi. C'est le livre de Shangraeli,
oui.
Les sombres feux du passé, qui est un livre inimaginable sur ce qu'est le trauma. Dans une histoire d'un expatrié japonais, etc. Et puis un deuxième livre qui pour moi est c'est de la sensation brute absolument extraordinaire, encore une histoire de grand migrant, qui est un livre de Shanimoto et qui s'appelle Fleurs de nuit. Et ben voilà, ce sont deux livres, je trouve, qui sont des merveilles. Pour l'un, la puissance du traumatique dans un destin, et puis le Shanimoto pour la puissance des sensations. C'est un livre qu'on lit en respirant des fleurs jusqu'à en étouffer littéralement. Et en écrivant Bombay, j'ai souhaité plusieurs fois retrouver quelque chose de ces sensations. C'est ce que j'aurais envie, de
Mais
donner à mes lecteurs.
C'est réussi. Alors l'émission va bientôt se terminer. Nous allons parler aussi, Marie Saglio, vous avez une rencontre à nous annoncer, parce que là, c'est proche, je crois que c'est le 17 juin.
Tout à fait. Alors, merci beaucoup de me donner cette occasion. Oui, je voulais annoncer la quatrième édition des Fabriques des Écritures Alternatives, qui est un très bel événement qui se reproduit donc chaque année en juin au MUCEM, avec la complicité d'un certain nombre de laboratoires, dont le laboratoire Norbert Elias, et qui permettra plusieurs tables rondes avec des écrivains, mais aussi des chercheurs. Et donc ce festival Focus a lieu entre le 15 et le 18 juin, et j'aurai le plaisir donc d'être à une table ronde sur la fiction et le pouvoir de la fiction le 17 juin à Marseille, au MUCEM.
Peut-être ça sera annoncé sur le site de votre éditeur.
J'espère.
Merci à vous, Marie Saglio, pour Bombay. C'est un roman et c'est paru chez Serge Safran, éditeur. Merci à vous tous.
Merci beaucoup.
C'était l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec Flo Descailloux, qui va nous réserver le mot de la fin. Ça va être une musique.
Et oui, mais j'avais au moins trois musiques, mais il y a une émission derrière et tu n'as pas trois heures d'émission. C'est bien dommage parce que c'était passionnant. Voici, j'ai choisi, en désespoir de cause, une actrice et danseuse de formation classique qui est également une chanteuse douée qui caracole en tête des ventes tout en poursuivant une carrière à la télévision. Vous devez la connaître. Il s'agit, pardon pour la prononciation, de Rajesh Wari Sachdev. Et comme vous avez parlé de la situation des femmes, ce titre, ça s'appelle Ma Avantetiyan, c'est-à-dire mère et fille. La maison paternelle est un nid dont un jour les oiseaux s'envoleront. Ils partiront très loin, nous ne reviendrons pas, mère. Mère, pourquoi as-tu fait des filles? Et ça date de 2003. Elle est très à cheval sur le rôle des femmes dans la société indienne.
L'autre soir, à l'heure de la verte, je suis entré dans votre cage à perroquet pour en étrangler un. J'aurais bien dû les étrangler tous. Le poète qui ressasse dans son gros bec toutes les foutaises du cliché, le peintre sempiternel aux pinceaux estropiés par les vieilles cisailles de l'école, et le musicien de barbarie qui promène son prix de rhum comme un écriteau d'infirme. De la blague, tout cela, camarade. Car pendant que vous chantez le bleu, les autres broient du noir, et pendant que vous faites de l'art, d'autres font de la misère. Tas de pitrons redingotes, dont les boniments couvrent comme l'orgue de Fualdès les clameurs des assassinés. Eh bien non, tête vide, ventre de son. Il n'y a pas que Montmartre, le moulin de la galette n'est pas la clé de voûte de l'édifice social. Il y a encore les écoles et les maisons de fous où l'on broie les cervelles, les usines où l'on écrase les muscles, farines épouvantables, pâtes humaines que pétrissent à leur gré la bureaucratie et le capital. Des soupiraux de la vieille bâtisse où nous logeons. Jusqu'à ce qu'on la démolisse, sortent les hans des boulangers en train de battre de l'homme. Poète, mets ce cri dans tes vers. Peintre, trempe tes pinceaux dans ce sang. Musicien, note le bruit de cet écrasement. Au-dessus de votre art, il y a la question sociale. Et au-dessus de votre cabaret Louis XIII, il y a l'église du Sacré-Cœur qui grandit sur vos crânes. Que la pensée qui est dedans éclate comme une mine en voyant au diable des morceaux de Jésus sanguinolent. L'heure est venue où toutes les idées doivent être tranchantes, comme des épées. Dans cet air orageux et rouge où grondent les révoltes prochaines, le je m'en foutisme ne saurait vivre. Copain Salis, transportez donc pour voir votre carriole d'arracheur de boc sur le bord de la grande Seine jaune. Ça sera bien le diable si vos poètes ne sentent pas passer dans leurs cheveux un vent de colère en écoutant la voix du fleuve, ce cimetière qui marche. Eudy Pascal.